Alors Jésus doit devenir l'objet de mes affections. Comprenez-vous? Est-ce que Jésus est devenu l'objet de vos affections? Mais pour s'affectionner à un objet, il faut le contempler, il faut le regarder, il faut l'écouter, il faut aimer sa compagnie. Est-ce que nous aimons la compagnie du Seigneur? Est-ce que nous nous plaisons avec ceux qui aiment le Seigneur? Est-ce que nous aimons ceux qui vont même plus loin que nous dans la vie spirituelle? Est-ce que nous aimons la compagnie de Jésus? Ah, vous direz, on voit bien qu'il est fréquent dans Jésus. Mais oui, c'est vrai, si être Jésus, c'est être dans la compagnie de Jésus, ben je suis Jésus. Parce que c'est ce qu'ils disent, hein, qu'ils sont la compagnie de Jésus. Ben ça serait vrai, ça serait merveilleux. Hein? Alors, au lieu de juger des jésuites, eh bien, je dirais, ben oui, moi aussi, je voudrais être dans la compagnie de Jésus. Je veux être dans la compagnie de Jésus. Et si je rencontre un jésuite, je dis, alors, tu es dans la compagnie de Jésus depuis combien de temps? C'est ça. Et puis, si c'est faire des exercices spirituels, parce que vous connaissez les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, non? Bon, ben, qu'est-ce qu'il est dit dans l'Écriture? Vous pouvez toujours trouver un moyenné, comme vous dites. Hein? On peut avoir un langage qui soit compris. L'exercice corporel, il est utile à peu de choses. Mais l'exercice spirituel, il est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Alors évidemment, on a certaines prétentions. Bon, je sais que je serai très mal interprété, une fois de plus. Mais je dis, au lieu de voir toujours ce qui est mal, hein, ben, vous dites ça, bon. Si vous dites que vous êtes vicaire du Christ, ben, ce serait merveilleux, représenter le Christ. C'est ce que nous devrions tous être, donc, en quelque sorte, hein. Mais est-ce que vraiment nous représentons le Christ? C'est cela qui compte. Alors, ce n'est pas à moi à juger les autres, mais j'ai à me demander dans quelle mesure est-ce que je représente le Christ? Dans quelle mesure est-ce que le monde peut voir quelque chose de Christ en moi? Parce que je n'ai pas d'excuse. Si quelqu'un a péché, qu'est-ce qui arrive? Oui, je peux pécher. Et vous pouvez pécher. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais vous avez un avocat. Pas besoin d'en chercher un. Vous avez un avocat, mais qui? Jésus-Christ. Il est auprès de qui? Auprès du Père, de celui que vous avez offensé, parce que quand on pêche, on offense Dieu lui-même. Mais le Christ est là pour nos offenses. Il est mort pour nos offenses, pour nos péchés. Alors, c'est pas seulement nos péchés passés, mais c'est ceux aussi que nous pouvons commettre tant que nous vivons dans ce monde, sur cette terre, en présence du péché. On est environné par le péché. Et alors, si nous ne veillons pas, qu'est-ce qui arrive? Pas de miracle. Hein? Si nous ne veillons pas, on glisse. Et on peut tomber. Et que celui qui se croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Et il est bien dit qu'il se croit être debout. Il n'est pas dit qu'il est debout, mais qu'il se croit debout. On se croit debout. Puis voilà que on peut tomber. Mais on a auprès du Père Jésus-Christ qui est le juste. Et il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Donc, cette question du péché, nous n'avons pas besoin d'aller chez le psychiatre pour en être débarrassés. Nous avons un avocat et nous pouvons les confesser. Et il est non seulement une victime expiatoire pour nos péchés, son sang a été versé, mais en raison de quoi? Pourquoi? Pour effacer nos péchés. C'est sa vie qui a été donnée. Mais il n'est pas seulement mort pour mes péchés, il est mort pour ceux du monde entier. Donc je dois aussi avoir espoir pour d'autres âmes. Alors, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Parce que forcément, si on vit dans sa compagnie, on aime ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, mais qu'est-ce qu'il est? Il est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Vous avez un problème sur ce verset? Non, c'est clair. Hein? Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. C'est ce que Jésus a dit lui-même. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça ne suffit pas de dire simplement qu'on l'aime. Il faut garder sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, il doit aussi marcher comme lui a marché. Alors, nous avons des traces, les traces du Christ, et nous désirons marcher dans ces traces. Puisque c'est lui qui est en nous. Bien-aimé, vous voyez comme l'apôtre aime les âmes. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, ce n'est pas des nouveautés ce que je vous dis, hein. Vous allez dire, mais on est venu à une retraite, puis qu'est-ce qu'il nous a dit? Des choses qu'on savait déjà. C'est vrai? Vous les saviez, ces choses? Je ne vous ai rien dit de nouveau. Et maintenant, nous contrôlons. Mais nous sommes des gens oublieux. Alors, on doit nous rappeler ces choses. L'action du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler ces choses. Et un prédicateur, c'est pas d'innover qui compte pour lui. C'est de rappeler l'essentiel. C'est de revenir toujours sur l'essentiel. Quand vous apprenez à vos enfants l'éducation, vous redites souvent les mêmes choses. Et vous savez qu'il faut dire souvent les mêmes choses à un enfant. Mais c'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui aimerait en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. C'est quelque chose de nouveau de pouvoir accomplir un commandement du Seigneur, et c'est quelque chose qui nous donne de la joie quand on se prend à aimer ce que Dieu aime. Puis, il n'y a rien de plus aimable que le Seigneur. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Alors, si je découvre que j'ai de la haine contre mon frère, qu'est-ce que je dois me dire? Ça va pas. Je suis malade. Hein? Je suis dans les ténèbres. Alors, si je constate que je suis malade, je m'en vais où? Je m'en vais chez le médecin. Et qui est mon médecin? C'est le Seigneur, c'est mon avocat. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Vous voyez qu'on a un remède formidable pour ne pas tomber. Il faut aimer. Tant que tu aimes ton frère, que tu vois, hein, il n'y a pas d'occasion de chute pour toi. Mais si tu ne l'aimes pas, si tu gardes une rancune dans ton cœur, il y aura pour toi une occasion de chute d'un autre côté. Comprenez-vous? Là, on est en danger. Si vous réalisez qu'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas, il y a une occasion de chute pour vous. Mais celui qui est son frère, qui est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et quand on ne sait pas où il va, où l'on va, on ne sait pas ce qu'on fera non plus. Quand on est dans les ténèbres, on peut tout faire. Alors, veillons à cela. Verset 12. Je vous ai écrit petits enfants. Là, vous avez trois catégories de personnes. Hein? Petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est ce qui arrive quand on vient de connaître le Seigneur, on est encore des petits enfants. C'est pour ça que quand vous venez de connaître le Seigneur, eh bien, soyez heureux, bénissez le Seigneur, mais ne vous faites pas tout de suite prédicateur. Hein? Jésus, quand il était petit enfant, il ne prêchait pas, il questionnait. Questionner au lieu de vouloir enseigner. Mais bien souvent, on vient de se convertir, puis on va aller laver la tête de nos parents pour leur dire qu'ils nous ont mal instruits, mal enseignés, et puis au lieu de leur demander pardon pour toutes les peines qu'on leur a faites. Parce que quand la vie de Dieu nous pénètre, le premier commandement qui devrait se manifester en nous, c'est « Honore ton père et ta mère ». Il dit « Oui, mais mon père, il était catholique, ou mon père, il était ceci ». C'est aucune importance. C'est pas ce que ton père était, c'était pas la religion de ton père qui compte. C'est toi, qu'est-ce que tu étais vis-à-vis de ton père et de ta mère. Ils t'ont élevé quand même, ils t'ont nourri, ils t'ont enseigné ce qu'ils croyaient être juste. Ils ont eu des déficiences peut-être, mais enfin c'est ton père et ta mère. Commence par t'humilier pour toutes les peines que tu leur as faites. Et vous aurez alors accès auprès d'eux après. Peut-être qu'en voyant votre vie transformée, en voyant votre vie changer, c'est eux qui vous poseront des questions. Et ça sera tout différent. Vous serez prêt à répondre avec douceur et crainte à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Vous n'assassinerez pas vos bien-aimés à coups de verset pour essayer de les convertir. On ne convertit personne nous-mêmes. C'est l'amour de Dieu qui transforme les âmes. Je vous ai écrit père, parce qu'il y a les petits-enfants qui savent que leurs péchés sont pardonnés. Mais les pères, c'est ceux qui ont déjà toute une vie spirituelle et qui peuvent enseigner, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous voyez, les pères, ce n'est pas des gens qui racontent un tas d'expériences qu'ils ont faites. Ils ont des expériences, mais ce dont ils aiment parler, c'est de lui. De celui qui est leur vie, et qui leur permet d'avoir des expériences. Puis, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Il y a donc l'enfant spirituel, il y a l'adolescence spirituelle, et puis il y a la maturité spirituelle, les pères. Puis vous attendez la vieillesse? Je l'ai dit souvent, il n'y a pas de vieillesse spirituelle. Pour quelle raison? Parce que la vie que nous avons, c'est la vie de Jésus. Montrez-moi Jésus vieillard. Il n'y a pas de Jésus vieillard. Il est mort dans la plénitude de sa force, il avait 33 ans. De sorte que nous avons cette vie-là, la vie même de Jésus. C'est pour ça que même dans notre vieillesse, il peut nous renouveler. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils ont la force d'un jeune lion. Ils sont comme des jeunes lions. Eh bien, que nous puissions connaître ce renouvellement spirituel jusque dans notre blanche vieillesse. Je vous écris, puis reviens, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. C'est quelque chose de dire, je suis maintenant un enfant de Dieu. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ça vous suffit de connaître le Seigneur. Je n'ai pas besoin de toutes sortes d'expériences extraordinaires. Je connais le Seigneur. Je connais la personne. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de faire toutes sortes d'expériences. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, c'est ce qui caractérise la jeunesse, et parce que Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et c'est merveilleux de penser qu'il y a une telle promesse pour les jeunes. Les jeunes peuvent vaincre le malin, le mauvais. Il y a une promesse pour les jeunes, mais le Seigneur veut canaliser cette force. Puis alors, verset 15, « N'aimez pas le monde ». Alors, j'espère bien que vous n'avez pas pris ce verset en disant, « Ben, moi, je n'aime que les chrétiens. Ou j'aime pas le monde, les gens du monde, les gens qui ne sont pas sauvés. » Mais alors, vous n'êtes pas du tout chrétien. Parce que vous savez, quand on est vraiment sauvé, on est tellement dépréoccupé de son salut, qu'on est un petit peu comme Paul et Moïse, qui disent, « Seigneur, si les autres pouvaient être sauvés, puis que moi je sois perdu, ben je serais heureux. » Ben, c'est jusque là qu'ils allaient. Hein. Moïse, il dit au Seigneur, « Efface-moi de ton livre, mais sauve les autres. » Paul dit, « J'ai souhaité être anathème, séparé du Christ pour mes frères, les Juifs, hein, pour que eux soient sauvés. » On ne dit pas, « Moi je suis un sauvé, puis toi tu es un perdu. » Bon, vous n'avez pas le droit de dire ça. Qui est vraiment sauvé et qui est perdu? C'est Dieu seul qui sait les choses, en finale. Parce que le dernier mot, hein, n'a pas encore été dit, tant que la mort n'est pas venue. La dernière page de ma vie, elle s'écrit là au moment de ma mort. Le dernier mot. je vous en parlerai ce soir. N'aimez point le monde. Le monde, c'est le système du monde. C'est ce monde, c'est l'arrangement des choses de la terre sous la conduite de celui qui est le prince de ce monde. C'est pas le monde de la création. Vous pouvez aimer la nature. La nature, elle est, qui est-ce qui a créé la nature? C'est Dieu. Alors, à lui est le monde et toutes les choses qui y sont. Alors, dans ce sens-là, dans le sens cosmologique, le monde est une chose belle et une chose bonne. C'est Dieu qui l'a créé. Mais il y a aussi le monde dans le sens historique. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les hommes qui se trouvent dans la sphère du monde. Il a aimé le monde, il a aimé les hommes. Mais ici, il a dit, n'aimez pas le monde. Il n'y a pas des contradictions, mais c'est un autre sens. Il y a trois sens au mot monde. Et là, c'est le sens, le système du monde, l'arrangement des choses sans Dieu. Hein. Puisque l'homme a été chassé d'Éden, eh bien, Caïn, lui, il veut organiser sa vie loin de Dieu. Alors, bon, il embellit la ville qu'il a créée par les arts, par l'industrie, et enfin, ce qu'on appelle la civilisation. Caïn est le père de notre civilisation. Mais le père de notre civilisation, c'est quoi? Un meurtrier. Alors, vous comprenez pourquoi il y a tant de meurtres dans ce monde? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car le monde, comme système, qu'est-ce qu'il a fait à Jésus-Christ? Il l'a crucifié, n'est-ce pas? Le système a crucifié Jésus-Christ. Il n'a pas pu supporter un homme tel que Jésus-Christ, et qui était pourtant le vrai homme. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce que le monde peut offrir? Qu'est-ce qui compte pour le monde? Écoutez un petit peu. Qui se dit dans le monde. Non, n'écoutez pas. J'aime mieux vous écouter après. Je donne les mauvais conseils. Oui. Alors, on va terminer ici. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. C'est tout ce que le monde peut vous donner. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On en reste là, et vous allez maintenant...
...qui était faite à l'apôtre Philippe. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Jean 12, verset 21. Il voudrait le rencontrer dans notre témoignage vécu. Il voudrait le lire sur notre visage et l'entendre par notre voix. Proclamer la vérité du christianisme. Tu voulais le... Comment? Le continuer? Et il voudrait le lire sur notre visage et l'entendre par notre voix. Proclamer la vérité du christianisme veut dire aussi fournir la preuve que le Christ continue sa vie en nous et veut l'amener à son plein épanouissement. Je crois que nous n'avons jusqu'à présent pas encore suffisamment compris combien Jésus est homme. Homme jusqu'à l'angoisse devant la mort. Homme jusqu'à crier son grand abandon sur la croix. Nous séparons inconsciemment encore trop le divin et l'humain en lui, comme s'il s'agissait de deux réalités opposées, comme si Jésus était homme malgré sa divinité, alors qu'il est pleinement homme précisément en raison de sa divinité. Nous rencontrons l'humanité du Christ à chaque page de l'Évangile. Il avait faim et soif, il est fatigué, il noue des amitiés, il pleure sur Lazare, il est pris de compassion pour la foule, il est plein de joie devant l'amour de son Père, il va à la rencontre des hommes avec grande simplicité et autorité intérieure. Les pécheurs, les malades, les souffrants, trouvent en lui de la compréhension et ceux qui cherchent entendent son appel qui les transforme. Chaque moment, il se décide pour la mission que son Père lui a donnée, commencée par la tentation dans le désert et jusqu'à la dernière décision dans le jardin des Oliviers. Il connaît la profondeur humaine de la souffrance et l'union avec la volonté du Père. Comme juif, il n'hésite pas à exprimer ses objections à la loi lorsqu'elle est un obstacle à l'amour du prochain. Ce n'est qu'en lui que nous pouvons nous comprendre nous-mêmes dans toutes les questions fondamentales. À vrai dire, il n'est pas venu pour résoudre nos problèmes techniques ou scientifiques, mais pour donner une réponse au plus fondamental de toutes les questions. Qui est l'homme? Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi la souffrance? Qu'est-ce qui m'attend après la mort? De telles questions sont valables pour tous les temps et pour toutes les générations. Nous trouvons en Jésus l'ultime motivation de la vie, de la souffrance et de la mort. Notre existence n'a pas de sens sans lui. Non seulement il nous montre le chemin, mais il nous y accompagne aussi. Il vit avec nous et en nous. Il est cause de notre joie. Sans Jésus, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. C'est exactement ce que je vous disais cet après-midi. J'ai, en lisant ce livre, entendu dans mon cœur un profond amen. Et je me suis retrouvé dans cet écrit. On lui demande à cet homme donc, qui écrit, c'est un journaliste, lui demande « Jésus-Christ est-il vraiment, au sens unique esprit, le Fils de Dieu ?» Alors lui répond « Cette question est essentielle. De sa réponse dépend la vérité de notre foi, le sort du christianisme. Le premier concile œcuménique de Nicée définit la divinité de Jésus comme un dogme de foi en l'an 325. Le concile d'Éphèse répète en 431 cette proclamation de foi et souligne alors aussi le caractère humain du Christ. Le concile de Chalcédoine proclame en 451 l'unité du Christ en deux natures en énonçant clairement la vraie humanité du Christ. Les conciles resteront pour toujours les piliers du temple de notre foi. On peut essayer de rédiger ces formulations avec plus de précision ou de nuance, mais on ne pourra pas toucher impunément à leur contenu. La divinité de Jésus-Christ implique qu'en lui, l'infinie richesse, l'infinie plénitude de la vie et l'amour miséricordieux de Dieu se sont manifestés. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. En lui, nous découvrons la présence de celui qui a dit de lui-même « C'est moi qui suis le premier et aussi le dernier » Ésaïe 48, verset 12. Et encore, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'âge » Matthieu 28, 20. Il s'agit ici d'une alliance. En Jésus, cette alliance prend une forme nouvelle d'une profondeur inouïe. En lui, le Dieu vivant offre aux hommes la vraie vie. En lui, Dieu s'insère lui-même dans la trame de notre histoire humaine. La venue de Jésus confère au monde un sens nouveau, insoupçonné, et lui apporte une lumière et une espérance définitive. Reconnaître sa divinité signifie rencontrer en lui la transcendance infinie de l'amour de Dieu. Pour les chrétiens, cette rencontre est une réalité qui apaise la soif de l'infini, qui sèche toutes les larmes, qui guérit toutes les plaies. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on expérimente ça? Elle est source de vie, de paix, de joie, de confiance. elle fait progresser chaque homme au-delà des obstacles, la haine, la guerre et la mort jusqu'à l'ultime espérance. Son message parle surtout de Dieu, le Père proche de tous les hommes. Ses actions et sa mission démontrent qu'il a avec Dieu le Père une relation qui n'est comparable à nul autre. Enfin, sa mort sur la croix avait détruit les espérances de ses disciples, avait apparemment donné raison à ses adversaires, mais sa résurrection a tout bouleversé. Car si Dieu ressuscite Jésus de Nazareth, alors que les dirigeants du peuple l'ont condamné comme blasphémateur, cela signifie que sa mission est vraie, que la révélation entière du Père a lieu par cet homme. Si Jésus de Nazareth n'était pas Dieu, fils unique du Père, mais seulement le premier des prophètes, Dieu nous aurait dans ce cas envoyé de l'extérieur un libérateur, mais il n'aurait pas été engagé lui-même dans la profondeur de sa propre vie pour le salut de l'homme. Dieu serait resté pour nous le Dieu éloigné et inaccessible pour toujours, le premier moteur immobile d'Aristote. Il serait le Dieu du déisme, ce Dieu de l'abstrait. Mais si Jésus est Dieu, Dieu de Dieu, nous découvrons alors, en même temps, combien véritable et brûlant est l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes face à Dieu qui veut partager notre sort, notre vie et notre mort. Nous pouvons répéter avec l'évangéliste Jean, dans la même joie, nous avons connu et nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et dans quoi? Dans l'épître de Jean que vous avez lu. Et le journaliste lui pose cette question. Les événements de la vie du Christ, plus particulièrement sa mort et sa résurrection, ne concernent en fait pas seulement le chrétien dans sa vie personnelle, mais aussi dans ses dimensions cosmiques. C'est sa réponse. Sa vie entière représente un événement qui rayonne sur chaque homme. Bien sûr, la foi dans le Christ ressuscité nous introduit au-delà de la portée des sens. Les premiers témoins ont vu cette foi, confirmée chaque jour par leur expérience. Ils deviennent, en raison de la résurrection de Jésus, des hommes nouveaux. Un nouvel Israël se crée, un ordre nouveau apparaît. Le Christ éternellement vivant est le nouvel Adam, 1 Corinthiens 15-45, le nouveau fondement de l'humanité. L'homme reçoit la vie lorsqu'il s'ouvre à cette source qu'est le Christ. Vous êtes d'accord? Si en revanche, il ne fait confiance qu'à lui-même, qu'est-ce qui lui arrive? Il s'atrophie. Et c'est bien là ce qui arrive. Quand on ne fait confiance qu'à soi, on s'atrophie. Jésus apprend à s'ouvrir à Dieu, à l'accueillir, à se laisser aimer par lui. Paul va jusqu'à dire: Dieu nous a ramenés à la vie avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste, Éphésiens 2:6. Dans la personne de Jésus, le ciel et la terre se rencontrent. Dieu veut rétablir un lien nouveau entre lui et chaque homme. Dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre des nations écrit: car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, Colossiens 1:19. Le Christ est le centre de la création, le sommet de l'humanité. La nature humaine est le langage de Dieu inscrit dans le temps. Dieu a dit: faisons l'homme à notre ressemblance. Jésus-Christ est cette image parfaite. Il a dévoilé dans sa vie le secret et le but de la création. Alors, là, c'est le journaliste qui parle. Jésus nous apprend dans le Notre Père que nous devons nous adresser au Père. Mais l'image du Père est en crise. on parle de société sans père. Alors, qu'est-ce qu'il répondait ? Personne ne peut parler du père si ce n'est Jésus lui-même. Et là aussi, je dois dire amen, hein ? Je suis d'accord ? Personne ne connaît Dieu si ce n'est le Fils de Dieu. Personne ne connaît le Fils de Dieu si ce n'est le Père. Seul le Christ peut nous révéler le mystère du Père. Quand nous disons Dieu est notre Père, il nous manque encore toujours cette douceur avec laquelle Jésus employait ce mot. Dans ce mot Abba, Père, il y a toute la confiance d'un enfant qui dit Papa. Cette paternité contient en même temps une tendresse qui évoque comme la maternité de Dieu. Lorsque nous parlons à Dieu en employant le mot Père, nous ne pouvons pas limiter sa signification à sa seule masculinité. Dieu, le Père, a aussi la douceur d'une mère. D'ailleurs, l'Écriture le dit, je l'ai cité, une mère oubliera-t-elle son enfant ? Je ne vous oublierai pas. Jésus lui-même promet à ses disciples qui quittent foyer, mère, père, frère et sœur, le sens subtend ici que dans l'autre monde. Dieu qui a créé l'amour contient en lui, j'aime beaucoup cette phrase, toute la diversité de l'amour humain. En Dieu, il y a l'amour d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, l'amour d'un homme, d'une femme, la sensibilité d'un ami. Toutes ces formes humaines sont condensées dans l'amour paternel de Dieu. Parce qu'il en est ainsi, François de Sales a pu dire avec confiance, au jour dernier, je préférerais être jugé par Dieu que par ma mère. C'est bon, hein? Au jour dernier, je préférerais être jugé par Dieu que par ma mère. Pour comprendre encore mieux le cœur du Père, nous devons écouter Jésus, car il est venu pour nous dévoiler le secret de son Père. Et il était en cela un maître extraordinaire. Il ne nous a pas laissé des livres savants. Jésus choisit un autre moyen pour nous expliquer la psychologie profonde de son Père. Il a raconté une histoire, peut-être la plus émouvante de l'Évangile, la parabole du fils prodigue. Ce n'est pas tant l'image du fils qu'il met en avant dans cette parabole, mais celle du père. Et il nous donne ainsi l'image de son propre père. Le fils est encore loin de la maison, et déjà le père l'aperçoit parce qu'il n'a cessé de l'attendre. Son cœur va à sa rencontre. C'est pourquoi il ne reste pas immobile. Il court vers lui, il le serre contre lui. Elle embrasse en disant, mon fils était comme mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et je l'ai retrouvé. Et une joyeuse fête commença. Le père ne laisse pas même à son fils le temps de donner le signe de repentir qui conviendrait. Chaque mot de l'évangéliste, Luc, nous dévoile la paternité de Dieu. Le fils aîné accepte difficilement cette générosité. Il pense que son père agit émotionnellement et même injustement, mais Dieu a sa propre manière de rétribution. Il montre ici une préférence pour les pauvres, ceux qui ont trébuché les fils prodigues. Et nous sommes tous plus ou moins des fils prodigues. Et alors le journaliste dit ceci, il est néanmoins souvent difficile du point de vue des hommes de croire à cet amour tout particulier du Père pour chaque individu. Est-ce que ça vous est difficile de croire que Dieu vous aime personnellement ? C'est là la question. Que répond-il ? Oui, la paternité de Dieu dépasse en effet notre compréhension humaine. Nous nous sentons perdus dans l'infini du monde. Avec les quelques 4 milliards d'hommes, comment Dieu peut-il prêter attention à moi dans cette masse? C'est pour moi une consolation de savoir que je ne suis pas aux yeux du Père une goutte d'eau dans l'océan ou comme une poignée de sable dans le désert, mais son enfant qu'il a appelé par son nom. Son amour contient une attention totale à chacun. Il ne confond pas nos noms. Hélas, ça m'arrive encore. Mais lui, il ne confond pas vos noms. Il connaît l'histoire de notre vie, page par page, chapitre par chapitre. Il sait même ce qui est écrit entre les lignes. Il connaît le filigrane du texte. L'Évangile nous en donne suffisamment de preuves. Lorsque Jésus rencontre Nathanaël et lui dit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier », ce que Nathanaël faisait, nous ne savons pas, peut-être priait-il, mais de toute façon, Jésus l'avait vu, et c'est ça qui est important. À la veille de Pâques, les apôtres demandent à Jésus « Où veux-tu que nous te préparions la Pâque ?» Il répondit « Allez chez un tel et dis-lui, le maître te fait dire, mon heure est proche, c'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. » Une fois que nous sommes totalement persuadés que l'intérêt bienveillant de Dieu s'étend même à des détails, j'ai parlé de mon manteau, hein, la vie change. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je me faisais quand même un peu du souci. J'avais peur de rentrer à la maison sans manteau, puisque ma femme me dit encore une fois. Mais le Seigneur s'est chargé de la faire. Pascal fait dire à Dieu dans son mémorial, j'ai versé pour toi telle goutte de mon sang. Mais Dieu a fait plus, il a versé tout son sang pour chacun de nous, comme si nous étions la seule personne au monde. Nous ne pouvons pas mesurer Dieu avec nos calculs mathématiques. Son don à chacun de nous est complet, total. À ses yeux, chacun de nous a une vocation particulière, différenciée complètement de celle des autres hommes. Dieu le Père nous aime. Il se soucie de chacun de nous. Rien n'échappe à la plénitude de son attention, à la profusion de son amour, de ses dons, aussi inexplicable que cela puisse paraître. Et je pourrais vous dire encore bien d'autres choses et qui sont vraiment extrêmement précieuses et que je pourrais aussi signer. Par exemple, sur la prière. Prier signifie pour moi ouvrir l'âme et se fermer aux perturbations atmosphériques. Cela implique silence et ouverture. Prier ne veut pas dire informer Dieu. C'est tellement beau ça. Si vous êtes informer Dieu, ça ne vaut pas la peine de le faire. Alors ne priez pas. Mais c'est pas ça. Prier, ça ne veut pas dire informer Dieu. Comme si ça n'avait rien. Pauvre Dieu. Il faut qu'on l'avertisse. Prier ne veut pas dire informer Dieu. Vouloir le rendre attentif à nos besoins. Prier signifie être prêt à recevoir la grâce que Dieu veut me donner. Prier, c'est se laisser conduire par la volonté du Père pour que notre vie entière, de la recherche du pain quotidien à la transformation du monde, soit imprégné de l'amour. Prier veut dire s'exposer à l'amour du Père pour vivre encore mieux comme son Fils dans les traces du Seigneur Jésus. Le premier livre des Rois décrit la relation de Dieu et du prophète Élie sur le mont Horeb. Il était ordonné au prophète, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant Yahvé. » Et voici que Yahvé passa. Il eut un grand ouragan si fort qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers. Et avant, en avant de Yahvé. Mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, du feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Dès qu'il l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors, une voix lui parla, un roi du monde. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, pas dans l'ouragan, mais il était dans le souffle de la brise légère. Voici la manière dont Dieu rencontre les hommes. Vous comprenez pourquoi nous aimons vous donner le temps de silence. Voici la manière dont Dieu rencontre les hommes. C'est pourquoi nous devons être vigilants pour entendre sa voix. Même lorsque Dieu ne nous donne pas ce que nous lui demandons, sa réponse est quand même toujours la meilleure, car il nous aime plus que nous ne le faisons nous-mêmes. Il nous faut relire un épisode significatif de la vie de Saint-Augustin. Sa mère Monique, une femme que j'aime aussi beaucoup, passe une nuit en prière dans une petite chapelle sur la côte africaine pour supplier Dieu d'empêcher son fils de quitter l'Afrique pour se rendre à Rome, la ville corrompue. Et que se passe-t-il? Voilà qu'Augustin profite de l'absence de sa mère, s'embarque sur un bateau et s'éloigne vers l'Italie. Qui oserait dire que Dieu n'a pas exaucé la prière de Monique en faisant exactement l'inverse de ce qu'elle demandait? Dieu remua ciel et terre pour exaucer sa prière, mais d'une façon tout autre. Dieu voulait qu'Augustin se rende à Rome et de là à Milan, car c'est là qu'il rencontra en vrai et trouva la foi et devint l'un des grands docteurs de l'Église. Et c'est vrai, vous connaissez la conversion de Saint-Augustin en lisant le texte romain, chapitre 13. C'est déjà l'heure de vous réveiller du sommeil. Sachons que la providence divine nous accompagne dans sa sagesse du début jusqu'à la fin de notre vie. Lorsque nous contemplons notre vie avec les yeux de la foi, nous reconnaissons aussi, dans les apparents hasards de la vie, des signes de sa présence cachée. Il suffit de petits indices pour dévoiler une présence. Quand je découvre une allumette dans le désert, ou une trace dans la neige, je sais qu'un homme doit être passé par là. Je reconnais l'existence de Dieu dans ma vie, grâce à des indications diverses que la foi me révèle de plus en plus. Parfois, l'amour attentif de Dieu apparaît dans le choix même de l'heure et du lieu où se termine notre vie. Et il en donne ici un autre exemple. Elle m'est donnée le message d'adieu, parce qu'il a déjà fait son testament spirituel cet homme. Alors, il dit, donc il quitte les fonctions qu'il avait et qui sont très hautes. J'étais avec lui le soir même où il me disait, demain, je m'en vais dans une certaine ville pour donner ma démission. Et alors, il avait fait ce testament à ceux qu'il quittait. Il dit, bien, malgré que je quitte ce poste, avec la grâce de Dieu, je consacrerai le meilleur de mes forces pour le Seigneur dans l'espoir de servir de mon mieux et jusqu'au dernier souffle. Lorsqu'on se quitte, les paroles d'adieu sont chargées d'une signification et d'une portée spéciale. Elles ont en quelque sorte valeur de testament spirituel. C'est dans cet esprit que j'écris ces lignes avec l'émotion que vous devinez, comme aussi avec le vif sentiment de n'avoir pas toujours correspondu à ce que le Seigneur et vous-même attendiez de moi au cours des années mouvementées que nous avons traversées ensemble. Années de transition, d'évolution, avec tout ce que cela comporte de souffrance, de tension, mais aussi de progrès et d'espérance pour le renouveau de l'Église. Confiant à la miséricorde du Seigneur, mais déficient dans la tâche accomplie ou inachevée, j'éprouve envers lui une immense gratitude pour la vie qu'il m'a donnée de vivre comme pasteur. Ma reconnaissance va aussi vers vous, en particulier vers vous qui avez été mes plus proches collaborateurs, les témoins de Jésus-Christ et de son évangile. À tous mes collaborateurs qui ont porté avec moi la sollicitude pastorale, j'exprime ma reconnaissance et je porte avec moi dans la prière le vivant souvenir. Mon souhait pour eux tous est que la responsabilité ecclésiale devienne de plus en plus communion dans le Saint-Esprit. Car pour travailler ensemble, il faut d'abord vivre sa foi à la même longueur d'onde et partager dans la prière unanime et persévérante une commune espérance. Puisse cette prière pénétrer et vivifier de plus en plus nos divers organes de co-responsabilité. Cette unité de profondeur est à la base de cette action commune. Chacun aura à la vivre toujours mieux afin que l'effort humain soit fécondé par la grâce et donc de l'efficacité qui prend sa source, non dans nos sagesses. Notre Seigneur ne demande pas aux siens d'être majoritaires dans le monde, mais il leur demande d'être le levain dans la pâte, sel de la terre, lumière sur le lampadaire. Ce qui manque à trop de chrétiens, baptisés et confirmés dans l'enfance, mais qui n'ont pas ratifié à l'âge adulte, par un engagement personnel, les richesses sacramentelles sont en eux, c'est d'avoir rencontré vraiment Jésus-Christ, d'avoir découvert son visage, sa parole, ses exigences, d'avoir noué avec lui, à la vie et à la mort, un lien existentiel. Au détour d'un chemin, Jésus a demandé un jour à ses disciples, à plus pour point, qui dites-vous que je suis? On connaît la réponse de Pierre. À chaque nouvelle génération, le maître pose aux siens la même question directe et vitale. Impossible de se réfugier dans les généralités, de lui dire que nous le reconnaissons comme un maître à penser, un exemple à suivre, un grand prophète, voire même le plus grand de tous les temps. La question décisive pénètre jusqu'au cœur comme un glaive tranchant, sans dérobage possible, et la réponse dépend de notre authenticité. Et de la réponse dépend notre authenticité chrétienne. Car le christianisme n'est pas d'abord un isme, un corps de doctrine, un code de vie. Il est d'abord une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Plus j'avance en âge, vous direz que c'est un menteur. Vous avez le droit de juger ça. Plus j'avance en âge, cet homme a 81 ans, plus le visage de Christ devient lumineux. Plus sa présence se révèle attentive, chaleureuse, délicate, permanente à travers tous les aléas de ma vie. Il m'apparaît chaque jour davantage comme celui qui non seulement vient inspirer et animer ma vie, mais aussi comme celui qui est pour moi voix sûre, vérité incarnée, vit toujours, la distance. On peut dire ça, mais je veux l'espérer. Peu à peu, il tend à devenir la respiration de mon âme, à couvrir tout l'horizon de ma vie comme un arc-en-ciel qui surplombe un paysage. Il est tout à la fois passé, présent, avenir, et cela au plan personnel comme à l'échelle du monde. Le Christ-hier, Jésus-Christ, est le mot-clé de la création et de l'histoire des hommes. Il renferme en lui-même tous les âges du monde, et particulièrement toute l'espérance d'Israël. La loi portait le Christ dans ses entrailles. Il est la réponse plénière à l'attente des patriarches, des prophètes, de Marie. Il est la promesse de Dieu, le nœud de son alliance dès l'origine du monde. Pour moi, personnellement, écoutez bien, il vint illuminer mes jeunes années des rayons de sa force comme un soleil à l'aube. Il me murmura tout bas les paroles qui décident d'une existence. Viens et suis-moi. Peu à peu, je découvris avec émerveillement sa présence toute proche comme celle d'un ami. À partir de là, j'ai pu vivre un crescendo de lumière, de joie, de certitude. il me semblait découvrir et vérifier à l'œuf la vérité fulgurante des paroles de Jésus qui me voit, voit mon Père. Jésus, ostensoir vivant son Père, m'a ouvert des horizons sur Dieu qu'aucune philosophie n'a jamais pu me donner. J'échange volontiers tous les traités sur Dieu que j'ai pu lire pour la page d'évangile où Jésus raconte l'histoire du Père de l'enfant prodigue. À travers la psychologie du Père qui guette le retour et accueille le prodigue à bras ouverts, j'entrevois ce qu'est l'invraisemblable amour de notre Père qui est dans les cieux. Cela suffit pour m'entrouvrir le ciel dès ici-bas. Je crois qu'il y a là la plus grande vérité, là où il y a le plus grand amour. Tout mon credo est dans ces mots. Le Christ aujourd'hui, Jésus, c'est aussi et à jamais celui qui veut occuper en moi toute la place et me dégager de moi-même, de mes étroitesses, de mes ignorances, de mon péché. Ça vous dit quelque chose? Bien, je vous embête. J'ai un certain but. Au sein de ces luttes journalières contre ma faiblesse et malgré mes infidélités, il poursuit inlassablement son œuvre de rédemption et de salut. Il m'aime d'un amour indéfectible, et cette certitude est le roc de mon existence. Jésus est venu me sauver. Est-ce qu'on peut dire ça? Il est venu me sauver de quoi? De moi-même, du péché, de la mort, des puissances du mal. Tout cela est dénué de sens, hélas, pour qui proclame la suffisance de l'homme, l'inexistence du péché, le néant après la mort, et qui range les puissances du mal parmi les mythes. Jésus, dont le nom même veut dire sauveur, n'est pas seulement celui qui me libère de moi-même, mais il est celui qui vient à nous comme le sauveur du monde. Le Christ demain, Jésus porte en lui tout mon passé, mon présent, mon avenir et donc toute mon espérance. Dieu, c'est le futur absolu. C'est Jésus qui m'achemine vers cet avenir, vers la rencontre finale avec notre Père des cieux. Jésus éclaire l'étape de demain, tel le faisceau lumineux de nos phares qui balaye l'obscurité devant nous. Juste assez pour éviter les obstacles et reconnaître le chemin. Jésus est la certitude, l'aurore boréale dans la nuit. Je sais qui j'ai cru. Il ne trompe pas. Ma propre mort est déjà plongée dans la sienne. Il a payé le prix. Et sa résurrection est déjà garante de la mienne. Désormais le vendredi saint, Pâques, la Pentecôte, forme un seul prélude. Leur mystère m'appartient et s'intègre à ma vie. En Jésus, toute souffrance devient germe de vie. En lui et par lui, je reçois chaque jour l'Esprit Saint comme une belle aventure à vivre. C'est l'Esprit, car l'Esprit est invention, création, imprévu, jeunesse. Il est par excellence l'antidote de tout vieillissement et de toute sclérose. Mais le Christ Jésus n'est pas seulement celui qui anime la vie personnelle du chrétien, il est aussi celui qui nous commande de porter son nom et son évangile au monde. Et ici, je voudrais redire une dernière fois, avec insistance, que l'Église est mission par tous les fibres de mon être. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Il faut obéir à cet ordre d'aller vers le monde entier, de rompre les amarres de notre passivité et de prendre la haute mer. Nous ne sommes pleinement christianisés que nous, si nous acceptons des christianisateurs au loin ou au seuil de nos portes.
nous ne sommes pleinement évangélisés que si, à notre tour, nous devenons évangélisateurs. On ne possède pas le christianisme, on est possédé par lui. Et l'on ne le conserve qu'en le diffusant autour de soi. Quelle révolution ! Ce serait si les chrétiens qui ont reçu le christianisme par héritage pouvaient prendre conscience à neuf de l'immense détresse spirituelle du monde d'aujourd'hui et aller vers ce monde pour lui révéler en parole et en acte, car l'acte aussi est langage, que Jésus-Christ porte en lui le salut suprême du monde, le secret ultime de cette fraternité humaine que les hommes ont tant de peine à nouer entre eux. Ah, si tant de chrétiens muets et passifs pouvaient accepter la logique de leur foi, se comporter en chrétiens actifs et témoins de leur foi, et reprendre à leur prince la parole de saint Paul, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. C'est fini. Des zones d'humanité qui se transforment. Pour l'Église, il ne s'agit pas seulement de prêcher l'Évangile dans des tranches géographiques toujours plus vastes, ou à des populations toujours plus massives, mais aussi d'atteindre, et comme de bouleverser par la force de l'Évangile, les critères de jugement, les valeurs déterminantes, les points d'intérêt, les lignes de pensée, les sources inspiratrices et les modèles de vie de l'humanité qui sont en contraste avec la parole de Dieu et le dessein du salut. Et c'est sur ça que je voudrais arriver, ce dessein du salut. Pour répondre à pareil idéal, il nous faut accepter de revivre personnellement la transformation bouleversante que les apôtres ont vécue au Cénacle de Jérusalem le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint les a couverts de son nom et de sa puissance qui a opéré en eux un changement radical. Hier encore, disciples craintifs de Jésus, ils prirent la fuite sans trop comprendre l'heure cruciale du calvaire. À la sortie du Sénat, ces mêmes disciples sont devenus apôtres du Seigneur, fidèles au Maître, jusqu'à la mort, témoins de la résurrection jusqu'au martyr inclusivement. Nous avons à reprendre en main les actes des apôtres, à les relire avec des yeux neufs, on a demandé des yeux ce matin, et à nous demander, sommes-nous, oui ou non, dans le fil de ce christianisme? Contempler l'Église naissante au matin de la Pentecôte, c'est aussi découvrir ce qu'est ma vie. À ceux qui craignent de survolter le rôle de Marie, je ne parle pas ici des dévotions et révélations privées qui ne font pas partie de l'héritage de notre foi, je voudrais simplement redire la parole de l'ange à Joseph, celle que je vous ai citée, ne craignez pas de recevoir Marie, ce qui est né en elle et de l'Esprit Saint. En ce qui me concerne, l'avenir s'illumine pour moi dans l'attente de la rencontre finale avec le Seigneur. Pour moi, c'est le rendez-vous suprême. Et je veux y aller avec joie. Les chrétiens de l'Église primitive attendaient avec impatience le retour glorieux du Maître. Ils se trompaient sur l'heure et le moment, mais ils ne se trompaient pas dans leur sentiment très vif de l'attente. Cet avant fait partie intégrante de toute la vie chrétienne. Thérèse d'Avila mourante laissait échapper ce cri du cœur, « Seigneur, il est temps de nous voir. » Seul le Seigneur connaît l'heure de la rencontre. Quant à moi, Il me suffit de savoir que le choix du moment sera dicté par la miséricorde de Dieu, prévenante et attentive. Au-delà de la mort, ce passage pascal, le Dieu qui nous attend est un Père infiniment aimant qui vient au-devant de son Fils, les bras ouverts. En lui, dans la communion des saints et des anges, nous connaîtrons une joie, une tendresse, une jeunesse qui surpasse nos plus audacieuses espérances. Voilà, j'ai cru devoir vous lire cela. Qui a écrit cela?
C'est le cardinal Thunin.
C'est converti au Seigneur. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un converti qui a écrit ça?
Non. C'est converti à ma vie, c'est un ami, c'est
Il connaît le Seigneur comme
nous. C'est ça.
Il connaît le Seigneur comme nous le connaissons. Quand on s'est mis à genoux les deux l'autre jour au palais épiscopal, on a pu prier ensemble dans la joie. C'était la troisième fois que je le rencontrais. Alors, mes amis, si vous avez entendu à certains passages un amen dans votre cœur, vous n'avez pas à vous dire, mais il fait partie encore de l'Église romaine. C'est pas ça votre problème. Votre problème, c'est de savoir, est-ce que nous, nous vivons quelque chose comme lui a dit? Nous avons lu ce matin, je sais que je m'attelle à un travail très, très difficile, mais je dois le faire parce que je vous aime et parce que je voudrais qu'il y ait quelque chose qui change. Le vrai problème de l'heure, c'est que nous sommes toujours en train de juger les autres au lieu de nous juger nous-mêmes et de penser que les autres ne sont pas dans la ligne parce qu'ils ne sont pas où nous sommes, nous. Mais voudriez-vous vraiment que ce monsieur soit où vous êtes? Est-ce qu'il n'est pas mieux où il se trouve et où il rend témoignage et où il a la possibilité d'atteindre beaucoup d'âmes et où il peut être le témoin du Seigneur? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est à chaque église qu'il y a un appel de Dieu. Et à chaque individu. Et alors à nous. Je vous demande encore une fois, croyez-vous que cet homme est au Seigneur? Je ne dis pas que vous n'êtes pas au Seigneur, c'est pas ça. Mais je dis que je reconnais qu'il y en a d'autres qui sont aussi au Seigneur. Et si un jour, dans un groupe de prêtres où j'étais le seul non-romain, j'ai dû les entendre dire la découverte que nous avons faite.
c'est que notre frère Gaston risque d'être au ciel. Parce que vous savez, pendant longtemps, on a dit hors de Rome, pas de salut. Mais voilà que tout à coup, ils éprouvent qu'il se pourrait qu'il y en ait, qu'ils ne sont pas de l'Église romaine et qu'ils soient au ciel. Mais alors, est-ce que ce ne serait pas temps aussi pour nous de découvrir qu'il se pourrait qu'il y en ait qui ne sont pas de notre groupe, de notre assemblée, de notre club, et qui se trouvent aussi au ciel? Ce n'est pas nous qui jugeons les âmes, c'est Dieu. Et quand on entend un homme qui nous dit qu'il a entendu Jésus lui dire « Suis-moi », dans le contexte dans lequel il vivait, selon les lumières qu'il avait, et il l'a suivi. Comment est-ce que moi je l'ai suivi? Alors, je dis maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'apprendre à nous juger nous-mêmes. Je vous demande un moment de prière. Hier, je vous ai lu ce qu'un directeur d'un institut biblique, évangélique, nous disait. Je vous ai dit que je me sentais en communion profonde avec lui. Et je peux vous dire qu'au cours de ces 90 minutes, où nous avons aussi vu des choses sur lesquelles nous n'étions pas sur la même longueur d'onde, mais où il m'a demandé de lui écrire, il y a des points, bien sûr, qu'il peut voir autrement que moi, comme tous peuvent voir des choses autrement que moi je les vois. Mais sur l'essentiel, c'est ça qui compte. Le problème de l'heure pour nous, c'est quand même que nous soyons d'accord sur l'essentiel. Parce que quand Jésus viendra, si Jésus revient cette nuit, croyez-vous qu'il n'y a que ceux qui ont vraiment la connaissance de son retour qui partiront? Ou bien croyez-vous que ce sont tous les siens, même ceux qui n'ont pas certaines lumières concernant son retour, qui seront enlevés? Est-ce que c'est la connaissance qui fait que nous sommes sauvés? Ou bien est-ce que c'est le salut que nous avons reçu, la personne que nous avons reçue? C'est là les questions que nous devons nous poser. Nous devons nous laisser questionner et interroger. Et ce que je demande au Seigneur, c'est que vraiment, quelque chose change dans nos conceptions. Ça ne veut pas dire que nous allons renier les vérités auxquelles nous croyons, que nous allons les taire, mais ça veut dire aussi que nous allons nous réjouir, comme Jésus se réjouissait quand il découvrait, même chez un païen, qu'il y avait de la foi. Hein? Il osait dire, j'ai jamais vu en Israël une aussi grande foi. Et ça, nous n'osons plus le dire. Nous disons oui, mais. Et il donnait un préjugé favorable à un docteur de la loi, à un pharisien, qui avait bien répondu à sa question. Il disait, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais nous disons, n'êtes pas loin du royaume de Dieu, c'est pas y être du tout. Alors, nous coupons les ponts. Comment est-ce que ça se fait que vous êtes sauvés? Est-ce que Dieu ne vous a pas fait grâce? Est-ce que vous voulez oublier tout le temps où vous étiez dans l'ignorance? Mais Dieu, à un moment donné, s'est révélé à vous. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne se révélerait pas encore davantage à d'autres? Réjouissons-nous déjà des lumières que certains ont pu recevoir. Demandons à Dieu que nous vivions selon les connaissances que nous avons. Et je crois qu'il y aura un tout autre témoignage qui se manifestera dans ce monde. Vous savez, quand on est face à la mort, comme Funès l'est maintenant, on ne parle pas d'une façon légère. Pourquoi est-ce qu'il y a un malaise parmi nous? C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Car nous connaissons par là que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Du temps de l'apôtre Jean, il y a eu des gens qui se sont levés et qui étaient reconnus comme des frères dans le milieu de Jean, et puis qui n'ont pas persévéré, eux, dans la vérité. Et qui ont commencé, justement, à nier, par exemple, la divinité du Christ. C'était déjà dans l'Église primitive. Et qui ont montré qu'ils n'avaient jamais été convertis réellement. Parce que celui qui nie la divinité de Jésus-Christ ne lui appartient pas. Et celui qui nie le Christ, le Fils, il n'a pas non plus le Père. Or, dans le témoignage que nous avons entendu, qu'est-ce que vous avez entendu? Un homme qui parle du Fils et de qui? Et du Père. Un homme qui croit à l'humanité réelle du Christ, mais aussi à sa divinité essentielle. Donc, on ne peut pas parler d'un antichrist. Un antichrist, c'est un adversaire du Christ. C'est quelqu'un qui n'aime pas le Christ. Or, quand on lit cela, je n'ai pas le droit de dire que cet homme a une façade. Et que ce n'est pas la réalité qui est dans son cœur. Alors regardez bien ce que vous avez lu dans l'épître de Jean. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et je ne mets pas cela en doute. Et vous avez tous de la connaissance, je voudrais vraiment le croire, que nous avons tous de la connaissance, mais qu'est-ce que c'est la connaissance? Qu'est-ce qu'il y a encore de plus que la connaissance? Qu'est-ce qui dépasse toute connaissance? C'est l'amour du Christ. Hein. L'amour du Christ qui dépasse toute science, hein, toute connaissance. Bien, j'espère que vous avez tous de la connaissance, mais ce que je veux espérer aussi, c'est que nous avons tous de l'amour. L'amour du Christ. Hein. Et cet amour du Christ, il ne suppose pas le mal. Il croit tout. On a de la peine à croire ça. Hein. Il espère tout. Il endure tout. Mais vous connaissez les versets, hein? Ça répond. Il y en a même dans votre cœur. Alors, vivons cela. L'amour ne suppose pas le mal. Il croit tout, il espère tout, il endure tout, et il ne périt jamais. C'est cela qui doit nous caractériser. Et souvenez-vous de cet amour du père de l'enfant prodigue, parce que c'est vrai. J'aime souvent dire que ce n'est pas la parabole du fils prodigue, mais c'est plutôt la parabole du père. Parce que c'est surtout le père que l'on voit, les sentiments du père qui attend son fils. La douleur du père, le désir du père, il n'attend pas avec un bâton. Et il court à sa rencontre. C'est ça l'amour. C'est aller à la rencontre de l'autre. Alors verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Moi, si je vous ai lu cela, c'est pas pour vous faire croire que vous ne connaissez pas la vérité, mais c'est pour vous laisser voir que Dieu peut aussi révéler sa vérité en dehors de nos milieux. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Je vous ai lu cela, non parce que je pense que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Vous voulez savoir si cet homme est un menteur? Ben vous avez le test ici. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Est-ce que le témoignage que je vous ai lu est celui d'un homme qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Est-ce que dans ce témoignage, vous avez entendu la négation du Père? Ça doit être clair pour vous. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Alors, est-ce que c'est une déclaration publique que je vous ai lu? C'est une déclaration publique, c'est un livre qui est publié. Hein? C'est une déclaration signée. Alors, quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Est-ce que ce n'est pas des choses que nous avons entendues nous aussi dès le commencement? Ce qui a été élu, nous les avons connues par la grâce. Alors réjouissez-vous d'apprendre que peut-être quelqu'un d'autre les a connues. Et nous ne le savions pas. Mais quelqu'un d'autre les a connues. Heureusement que Dieu est un Dieu d'amour. Quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque... Est-ce qu'un cardinal fait partie des quiconques? Alors on devrait se réjouir. Même un cardinal. Alors pour qui est-ce que je me prends, moi? N'est-ce pas? Si on vous disait que Gorbatchev s'est converti, qu'est-ce que vous diriez? Alléluia! Est-ce que vous priez pour lui? Mais c'est ça qui doit nous pousser. Pendant longtemps, j'ai prié pour Khrouchtchev. Excusez-moi, il est fou. On pensait que j'étais communiste parce que je disais qu'il fallait prier pour ces hommes. Mais c'est quand même drôle. Est-ce que ce sont des hommes, oui ou non? Est-ce qu'ils ont besoin d'être sauvés? Mais oui. Et si ces hommes qui gouvernent même la Russie étaient visités tout à coup par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que vous diriez? Mais vous devriez juger Dieu. Écoute, oh Dieu, tu n'avais pas à employer Cyrus, c'est un païen. Hein? Qui est-ce qu'il a employé pour ramener Israël à Jérusalem? Un païen, Cyrus. Il réveilla l'esprit de Cyrus. Mais moi, je crois en un Dieu qui peut réveiller l'esprit d'un païen. Et qui pourrait même convertir des gens qu'on pense très très loin. Regardez le sol de Tars. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? C'était quand il était encore plein de violence et de rage qu'il a été atteint comme une flèche par la grâce. Et qu'est-ce que Dieu a fait de ce sol de Tars? Celui qui nous a apporté l'évangile. Alors on peut quand même se réjouir. Dieu n'est pas limité par nous, par nos moyens, par nos méthodes. Il n'a pas même besoin d'un prédicateur. Oui, que nous soyons tous des prédicateurs par notre vie, et aussi par nos paroles, mais que ce soit des paroles de grâce, assaisonnées de sel. Et voyez-vous, ici, moi je ne juge personne, même si... Et je suis heureux que certains aient pu dire au Seigneur, bien, je confesse que peut-être je m'y suis mal pris. Mais je ne vous juge pas parce que vous y êtes mal pris. Parce que je crois que beaucoup ont été victimes d'un certain enseignement qui a été donné et qui aurait dû être autre. Alors, on nous a conditionnés, on nous a plus ou moins fait croire que, au fond, Jésus-Christ était venu pour semer la pagaille et la division dans les familles. Et puis s'il n'y avait pas la division, c'est qu'on n'avait pas rendu témoignage. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait commencer. Il fallait commencer par s'humilier. Le caractère de Jésus dans une âme, quand c'est le caractère de Jésus, c'est la douceur et l'humilité. Il était doux et humble de cœur. Et il a toujours donné à la semence la possibilité de germer. Puis il a eu la patience. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous et vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que vous avez reçu de lui, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Voilà ce qui compte pour nous. Individuellement, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, qu'à son retour, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Est-ce que nous pouvons reconnaître que des autres sont nés de lui? Si quelqu'un pratique la justice, il est né de lui. Cet homme m'a dit un jour, il y a 9 ans, avant ma conversion, vous pouvez aussi parler de ce que vous étiez avant votre conversion. Vous êtes converti. Alors, il y a eu un avant, hein. Il y a un maintenant. Alors,
Moi, je ne doute pas de votre conversion. Alors, ne doutez pas non plus d'un témoignage qui nous a été rendu ici. Et que vraiment, je ne suis pas venu en pensant vous le lire, mais je vous ai dit qu'on allait se laisser conduire. Et il m'a semblé que c'était peut-être utile, même si ça avait l'air d'être un pavé dans la mare, et de vous lire cela. Dieu notre Père, maintenant nous voulons nous courber encore une fois devant toi pour te bénir, pour ce que tu es capable de faire. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant pour toi? Nous nous étonnons, nous sommes un peu comme Sarah, comme Abraham, incrédule, parce que nous regardons à ce que nous sommes, parce que nous regardons à ce que les autres sont de loin, alors que nous ne les connaissons pas. Nous voulons te prier que tu nous donnes d'être plus évangéliques dans nos pensées et de revenir à ce sermon sur la montagne où tu nous enseignes de ne pas juger. Ne jugez pas afin de n'être pas jugé. Car de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Donne-nous de savoir te rendre grâce, de nous avoir éclairés. Donne-nous de te bénir pour les lumières que tu as pu nous donner, mais donne-nous encore davantage. Donne-nous maintenant cet amour qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout et qui ne périt jamais. Parce que si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Et tout notre christianisme n'est que de l'airain qui résonne et qu'une cymbale qui retente. Donne-nous de devenir petits à nos propres yeux pour ne plus voir que ta grandeur et savoir t'admirer dans les autres. Et donne-nous aussi de voir dans les autres le Christ. Pour la gloire du Père, au nom du Fils.